ne sera rien. Juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Il pleut à verse, le ciel est gris et noir, mais la lune est dans vos oreilles tous les mercredis à partir de 18h30 sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, c'est les informels, les nouvelles de la pleine lune et puis ensuite les coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite. Radio Pleine Lune 3.8 MHz, son femme Radio Zone. En Europe, le travail salarié des femmes se conjugue vers l'augmentation. Un dossier présenté par le journal européen. Attention, les femmes sont en tête. Malgré les galères, la précarisation extrême des jobs qu'on leur a laissés durant ces 20 dernières années, les 72 millions de femmes européennes en âge de travailler n'ont jamais décroché, et cela malgré toutes les allusions perfides qui n'ont pas manqué pour qu'elles retournent dans leur foyer. Les femmes sont donc de plus en plus actives en Europe, 39,6 millions dans les années 60 et 53 millions dès 91, alors que le nombre d'hommes actifs, lui, déclinait de 83 millions à 82 millions. Oui, les femmes sont donc bien là, flexibles, très flexibles, toujours pénalisées par des salaires de 10 à 20% inférieurs à ceux des hommes, à qualification égale, mais leur voix commence à peser lourd désormais dans la vie politique et sociale. Tony Blair et Lionel Jospin l'ont bien compris, et compris à temps, en nommant l'année dernière une nouvelle génération de femmes politiques. Et l'époque des personnalités féminines gouvernementales d'exception, mais solitaires ou décoratives, s'achève. C'est pour ses compétences, sa ténacité, peut-être aussi un sixième sens, peut-être féminin, de la négociation que Blair a nommé Mo Molland, celle qui finalement a fait la paix en Irlande. Elle est le ministre des Affaires irlandaises, il a eu en tout cas raison, puisque Mo a gagné. Elle est aujourd'hui en tête des sondages britanniques. Cette reconnaissance au mérite, ce droit à l'indifférence sont de plus en plus notables chez les jeunes. Les étudiantes décrochent aujourd'hui des diplômes de l'enseignement supérieur en nettement plus grand nombre que leurs copains. Au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, le taux de chômage des diplômés et femmes est désormais inférieur à celui des hommes. À la faveur d'une des mutations du travail les plus fulgurantes, les plus éprouvantes aussi que l'histoire ait connues, les femmes ont ainsi confirmé en 20 ans leur présence partout à leur manière. Puisque les grosses entreprises et leurs conseils d'administration peuplés de costumes trois pièces ne leur concèdent que des strapontins, elles prennent peu à peu le pouvoir ailleurs, du côté de l'avenir, dans les interstices du travail indépendant et des micro-entreprises où, surprise de taille, le nombre de femmes à des postes dirigeants dépasse celui des hommes. Et surtout, le fait que les entreprises, souvent petites, il est vrai, créées par des femmes, font beaucoup moins faillite que celles créées par des hommes. À ce titre, la grande grève qui a secoué le Danemark il y a d'ici deux mois est très instructive, puisque ce sont en fait les femmes qui non seulement les femmes syndiquées qui l'ont provoquée, qui l'ont conduite et qui en ont donné le contenu. Ce sont donc ces femmes, femmes qualifiées ou non, qui ont mené ce premier conflit majeur de sortie de crise en Europe. Ce sont elles qui ont rajouté dans les négociations. Pour une fois, ce n'était pas pour du salaire, mais pour du temps que les travailleurs et travailleuses, surtout, se sont battus. Sur le temps libre, quand la plupart des grévistes réclamaient une sixième semaine de congés payés, le syndicat des femmes, la Fédération des ouvrières danoises, la CAD, exigeait 20 jours de plus par an. Les revalorisations salariales, elles laissent tomber, ça ne les intéresse pas. Ce qu'il leur faut, c'est du temps, pour elles, pour leurs enfants, pour la formation, pour une seconde ou pourquoi pas une troisième vie. En revanche, elles exigent ce temps. C'est très exactement ce que l'on observe aujourd'hui en France, sur les 35 heures, où les femmes sont les premières à savoir ce qu'elles feront des heures et des journées ou des semaines libérées quand les hommes restent dubitatifs. Bien sûr, ce besoin de vie multiple, celle du foyer et celle du travail au premier chef, révèle d'abord la faible implication des hommes dans les tâches domestiques. Mais c'est aussi l'angoisse réelle des hommes à la seule idée de quitter le vieil univers du travail à temps plein qui est révélé par tous ces discours. Arrivées plus tard sur un marché de l'emploi déjà en plein bouleversement, les jeunes femmes se sont aussi adaptées plus vite et qui sait, elles en sortent peut-être gagnantes. Sicile, l'île des machos, connaît une petite parenthèse, si on peut dire. Cefalù, la cité sicilienne bien connue pour ses plages, est devenue la cité des femmes. C'est la deuxième ville touristique de Sicile et les femmes y sont de plus en plus actives et à des postes de pouvoir puisqu'elles dirigent le commissariat, l'hôpital, les hôtels, les tribunaux et depuis janvier, la mairie. À tel point que la presse italienne a rebaptisé Cefalù la cité des femmes. Il faut donc donner du madame à tout va pour s'adresser à la maire, Simona Vicari, à la nouvelle commissaire de police, Gabriella Tomasella, nommée en février, aux deux juges du tribunal de première instance, sans parler des directrices de l'ANP locale, de l'hôpital, de l'office du tourisme, de l'école primaire, du lycée. L'emprise gagne le privé, l'une des plus grosses banques de la ville, l'un des plus grands hôtels, des dizaines de magasins sont tenus par des signores. Ces nouvelles manageuses ont toutes le même profil. Elles sont jeunes, elles ont fait le plus souvent carrière dans l'administration et leur promotion doit tout au mérite. En Italie, beaucoup ont choisi la fonction publique, dit l'une d'elles, tout comme elles optaient pour l'intérim aujourd'hui, explique Anna Maria Comito, membre du nouveau ministère pour l'égalité des sexes à Rome. Les raisons sont identiques, des horaires plus souples qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale. En tant que femmes, disent-elles, nous avons toujours été habituées à mener plusieurs vies de front. Ce n'est donc plus un problème, c'est une nécessité. Les changements sont donc très rapides. Dorénavant, les problèmes sont abordés de manière beaucoup plus concrète. On préfère le travail en équipe, aux structures hiérarchiques, les objectifs plutôt que les ordres. Mais il en faudra plus pour transformer la petite ville en cité idéale. Le chômage frappe encore plus de 30% de la population, et plus particulièrement les femmes. Les hommes autrichiens doivent aller au fourneau. Le Parlement de Vienne doit voter une loi qui obligerait les hommes à partager les tâches ménagères. Plus exactement, ils ne pourront plus obtenir un divorce à leur avantage au motif que leur épouse ne s'occupe pas correctement de leur maison. Une pub qui a coûté plus de 20 millions de francs français fait passer le message. Le ménage, c'est moitié-moitié. En Grande-Bretagne, la nomination de femme pasteur dans l'église anglicane a fait beaucoup de bruit, mais tout n'est pas rose dans ce milieu-là. Judy Lynn, ordonnée pasteur en 1994, cette Anglaise s'est inquiétée du mauvais traitement infligé aux femmes par l'église anglicane et a poussé l'enquête jusqu'à rédiger un rapport qui montrait l'étendue de résistance du clergé à la féminisation de la fonction sacerdotale. Aujourd'hui, il y a plus de 1700 femmes qui ont le titre de pasteur, mais les paroisses ne sont pas tenues d'accepter des candidatures féminines. Du coup, 400 femmes à peine sont titulaires et bénéficient d'un logement de fonction. Les autres, c'est la précarité qui est leur lot. Une centaine ne peuvent exercer leur vocation qu'à temps partiel et une large majorité assure des ministères non rémunérés. Dans ce rapport, Judy Lynn Nass, qui rassemble une centaine de témoignages, dénonce les pratiques discriminatoires explicites. Ainsi, une candidate recevait un coup de fil de son évêque 3 jours après son entretien pour lui expliquer qu'il avait changé d'avis parce que le bedeau refusait de travailler avec une femme. D'autres ont le sentiment d'être considérés comme des prêtres de seconde zone. Plusieurs ont eu à subir des remarques sexistes de leurs paroissiens ou de leurs collègues. Tout le monde s'attendait à ce que l'Église soit plus vertueuse que le monde du travail. Mais en fait, le clergé féminin n'est protégé par aucune législation. Ce qu'on ne pourrait pas dire à un noir ou à une femme dans une entreprise, une femme pasteur doit le subir sans que l'auteur risque une quelconque sanction, s'insurge Judy Dorsett. Du côté de l'Église anglicane, bien sûr, on met en cause le sérieux méthodologique de la jeune femme, voire son parti pris et même sa santé mentale. En Espagne, et surtout à Madrid, une campagne contre les femmes battues. Jusqu'en 92, 90% des Espagnols considéraient que c'était une affaire privée quand on battait sa femme. Cela change. On compte 24 000 dénonciations pour mauvais traitement en 97. Madrid vient de lancer une campagne de prévention soutenue par des spots publicitaires. En Italie et en France, la participation des femmes aux revenus du ménage est devenue essentielle. 64% des travailleuses italiennes et 72% des françaises rapportent plus de la moitié des revenus du foyer. L'Europe de l'Est et la Turquie ont des taux de mortalité maternelle de 10 à 15 fois plus élevés qu'à l'Ouest, et surtout cela a, en tout cas en Europe de l'Est, augmenté avec la chute du mur. Une campagne publicitaire contre la traite des blanches a été lancée en avril dernier à Varsovie par la fondation Strada, qui milite aussi en République tchèque et en Ukraine. Première condamnation pour harcèlement sexuel en Grèce. C'est donc la toute première condamnation qui a été prononcée le 10 mars contre un directeur de supermarché de Patras dans le Péloponnèse. 60% des femmes hélènes seraient soumises à ce type de harcèlement. Les patrons suédois sont sexistes. S'il y a 50% de femmes au gouvernement, il y a seulement 22% des firmes suédoises qui ont fait entrer une femme dans leur conseil d'administration, contre 95% aux États-Unis. Parmi les 229 sociétés cotées en bourse, une seule est dirigée par une femme. En Europe toujours, les familles monoparentales font trembler les politiques sociales. Il y a de plus en plus de familles monoparentales partout en Europe. C'est par exemple le cas en Grande-Bretagne, où on a noté une très nette augmentation du nombre des familles monoparentales, pour ne pas dire les mères célibataires. Le phénomène est très connu aussi aux États-Unis, où le gouvernement a pris une mesure radicale en supprimant assez largement les allocations des mères célibataires pour les remettre au travail, soi-disant si avec les allocations, où elles faisaient peut-être même des bébés juste pour toucher les allocations. Location, qui sait. À leur tour, les hommes politiques européens prennent conscience du phénomène. Près de 6 millions d'enfants, sur quelques 72 millions dans l'Union européenne, vivent dans des familles monoparentales. Dans certains pays, les taux progressent rapidement. En France, 9% d'enfants de moins de 16 ans vivent avec un seul de leurs parents, 14% au Danemark, 16% en Grande-Bretagne. Et ce sont justement ces familles monoparentales qui battent, bien sûr, les records de pauvreté. Quelques conservateurs britanniques, une poignée de parlementaires français, plutôt frontalement nationaux, ont repris l'analyse des congressistes conservateurs américains. Les femmes seules mettraient au monde des enfants pour cumuler les aides. Elles organiseraient leur insolvabilité et seraient donc à l'origine de la faillite de la famille traditionnelle. À ceci près qu'une étude et toutes les statistiques les plus récentes démontrent bien sûr le contraire. La plupart de ces jeunes femmes sont aujourd'hui ce qu'on peut appeler des mères courage, qui s'accrochent coûte que coûte à la vie active. Comment d'ailleurs se comporter autrement? En Grande-Bretagne, une mère célibataire doit tourner avec 2400 francs français par mois. En Allemagne, elle ne toucherait que 1000 francs et quelques maigres aides au logement. En France, elle aurait droit à environ 4000 francs d'allocation pour parents isolés. Allocation versée pendant une seule année et non cumulable avec le RMI l'année d'après. Mystère. Du coup, une grande majorité des mères seules n'ont pas d'autre choix que de travailler. En Irlande aussi, de plus en plus de femmes travaillent. Le nombre de femmes a grimpé en flèche au cours de ces 25 dernières années, de 28% à 40%. La proportion des hommes tombe de 80 à 70%. Le chômage donc touche plus facilement les hommes, ou plutôt des professions où il y a plus d'hommes que de femmes. En Espagne, les militaires et les policières espagnoles se plaignent. Elles sont à peine 2,8% des effectifs de la police et elles ont des talons beaucoup trop longs, 4 cm de plus que ceux de leurs collègues masculins, d'où difficile parfois de faire son travail. Une seule femme a décroché le titre de commissaire, mais au pays des machos, elles disent en tout cas n'avoir aucun problème de discrimination ou d'écart de salaire. En Hollande, de plus en plus beaucoup de femmes accouchent à la maison. Un tiers des Néerlandaises mettent au monde leur enfant à domicile. Mais il faut dire que le système de santé est organisé pour qu'elles puissent faire ce choix. Et ça fonctionne. Bien sûr, elles font exception en Europe où dans la plupart des pays, cette coutume a totalement disparu. 30% donc des bébés hollandais naissent à la maison dans une ambiance tout à fait normale. Pas de chambres aseptisées, pas d'hôpitaux. Cette pratique, qui semble désuète ailleurs, est risquée dans d'autres pays européens, mais au contraire, c'est très bien développé et très bien intégré dans le paysage des soins hollandais. Aux Pays-Bas, l'accouchement à domicile n'est pas considéré comme archaïque, c'est un choix individuel rendu possible grâce à l'encadrement très spécial qu'offrent les sages-femmes et les médecins et les équipes médicales en général. Les accouchements à domicile se font toujours sous la surveillance d'une sage-femme. À l'hôpital, ce sont les femmes qui sont en visite, là c'est le contraire, c'est la sage-femme. Chez elles, les mères sont rassurées, elles ont l'impression d'être plus libres, de maîtriser davantage la situation. Et puis, le père aussi peut participer, et parfois même des copines, d'autres enfants, etc. Dès que des complications apparaissent, les femmes sont immédiatement amenées à l'hôpital et elles sont confiées à un obstétricien. Les autres femmes, 70%, peuvent choisir entre deux possibilités, soit la polyclinique où elles ne passent, finalement c'est un accouchement ambulatoire, elles sortent après quelques heures, accouchement également fait par une sage-femme, ou alors la formule classique, accouchement avec un médecin, avec des structures, des blocs opératoires, des centres de réanimation péridurale, etc. Ce genre de traitement étant plutôt donné aux femmes qui ont des problèmes de risque. Et puis après la naissance, les parents ne sont pas livrés à eux-mêmes. Pendant une semaine, une aide maternelle à domicile soigne, lave l'enfant, fait le ménage, le repassage, la cuisine. On pourrait imaginer que d'autres pays d'Europe, surtout dans les pays où les petits hôpitaux tendent à disparaître, comme c'est le cas en France, développent ce genre de services et d'attention aux femmes enceintes et aux femmes accouchantes. En tout cas, dans les autres pays d'Europe qui ne pratiquent pas ce genre d'accouchement, c'est la césarienne, elle, qui est en hausse directe. La fréquence des césariennes n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Le nombre d'accouchements réalisés par ce procédé aussi entre 12 et 15%, mais on atteint, par exemple, en Italie, 24%. Au contraire, les Pays-Bas, justement, ont le taux le plus bas de toute l'Union européenne. Une enquête du magazine français Sciences et Avenir mentionnait des dizaines de maternités où 30% des accouchements se pratiquaient par césarienne, alors que la moyenne est à tour de 14%. C'est principalement dû à une mauvaise organisation du système de santé qui entraîne l'utilisation trop systématique de la césarienne. Des femmes arrivent à la maternité sans avoir jamais eu de contact avec l'équipe médicale, souvent des femmes en situation précaire, immigrées, et l'équipe ne connaît pas les antécédents médicaux de la famille, de la femme qui accouche. Les médecins choisissent donc la césarienne pour éviter des problèmes. La taille de l'établissement joue aussi un rôle. Une petite maternité réalise par exemple jusqu'à 24% de ses accouchements sous césarienne car elle ne parvient pas à recruter un obstétricien spécialiste qui sont en voie de disparition en France, d'où c'est un chirurgien. Et en plus, bien sûr, il est beaucoup plus payé que pour un accouchement normal. Les césariennes sont donc plus fréquentes dans les établissements privés que publics. Et bien sûr, ça coûte. Plusieurs facteurs entrent en compte. Qualité de l'environnement pédiatrique, présence ou non d'un obstétricien, de même que les modes de rémunération pratiqués dans les cliniques. Dans le privé, les obstétriciens sont payés à l'acte. Or, un accouchement par césarienne rapporte deux fois plus que celui qui se fait naturellement. En Russie, les nouveaux riches ont leurs nouveaux esclaves. Le capitalisme, selon Marx, c'est l'exploitation du prolétariat. Eh bien, pour les capitalistes russes, c'est plus l'exploitation, c'est directement l'esclavagisme. Ils profitent de l'écart grandissant entre le niveau de vie de la capitale et celui des ex-républiques soviétiques. Des centaines d'Ukrainiens ou de Moldaves attendent chaque matin dans les gares d'être embauchés au noir sur un chantier de la capitale pour un salaire misérable et parfois incertain. Un commerçant moscovite avait quant à lui mis au moins un système assez bien au point. Il achetait 6000 francs des jeunes Kazakhs à leurs parents qu'il séquestrait dans sa cave de son magasin où ces jeunes femmes travaillaient sans salaire du matin au soir. Jospin ne séduit pas les femmes. Il a un problème avec les femmes. Toutes les enquêtes le confirment. L'électorat féminin l'apprécie moins que c'est l'électorat masculin. 10 points de moins. Que ce soit en ce qui concerne le style du gouvernement que en ce qui concerne ses projets. C'est surtout les mesures concrètes telles que les restrictions maladroites des allocations familiales et de la garde de domicile, qui, bien sûr, a choqué les femmes. Mais pour Geneviève Fraisse, qui est la déléguée interministérielle aux droits des femmes, les femmes, plus largement, ne se reconnaissent pas dans les lois qui sont votées. Pour elle, et je cite là une interview qui a été faite dans Le Monde, les femmes ont soutenu le gouvernement et elles ont une très forte attente. Elles n'ont pas pu entendre ou pas compris la volonté politique des droits des femmes du gouvernement. Cela s'explique d'ailleurs. Le Premier ministre a voulu faire du droit des femmes autrement. Il n'y a pas de ministère en charge de ce dossier, mais une structure interministérielle légère. Le gouvernement a annoncé deux pôles, celui de la parité, celui d'une campagne sur la contraception et sur les violences. Entre ces deux axes se joue le droit des femmes. Les femmes se disent, d'un côté, oui, il va peut-être y avoir de la parité puisque c'est en discussion. Là, le gouvernement tient ses promesses. Sauf que les femmes ne sont pas convaincues que cela aura des effets dans la vie réelle. Le Premier ministre a nommé beaucoup de femmes, d'accord. Mais est-ce que ça suffit? Les femmes veulent que cette parité déclenche de l'égalité, c'est-à-dire qu'elle ait des effets ailleurs que dans la sphère politique, notamment dans le domaine économique, pour l'égalité professionnelle. Là, il y a une forte attente. C'est comme s'il y avait deux chemins parallèles. Le premier parallèle est celle de la parité. Elle indique que la démocratie est sexuée, ce qui est une bonne chose. Mais, dit-elle, toujours Geneviève Fraisse, je propose de parler de parité domestique, comme il y a un gouvernement domestique. Ce serait novateur. Prendre les décisions ensemble, et pas seulement partager les tâches dans la famille. Cesser de considérer que le domestique est d'abord l'affaire des femmes. Un deuxième parallèle se profile avec des lois faites par des gouvernements. Si l'on exime trois textes, les 35 heures, l'exclusion et l'immigration, les femmes ne s'y retrouvent pas du tout. Ce sont des textes généraux. Des députés vous diraient d'ailleurs que chaque fois qu'elles ont proposé des amendements concernant les femmes immigrées, par exemple le temps partiel ou des parents isolés, ils n'ont pas été retenus. De la loi sur les 35 heures, par exemple, il ne sortira pas mécaniquement une nouvelle articulation entre vie privée et vie professionnelle. Il ne faut pas que les femmes soient les perdantes de la famille. Il faut qu'elles soient reconnues dans leur activité professionnelle comme dans leur maternité. D'un côté, la parité dit « il existe des hommes et des femmes ». De l'autre, les lois disent « il existe des êtres humains à qui il arrive des choses indifférenciées ». Mais les femmes savent très bien que c'est faux. On ne parle plus des mères célibataires, mais de familles monoparentales. On ne parle plus du temps partiel féminin, mais du temps partiel en général, alors que cela concerne 80% des femmes. Arrêtons de rigoler, dit Geneviève Fraisse. Cette volonté d'asexuer les catégories de population s'inscrit au moment où on a voulu sortir les femmes de leur ghetto. Mais il n'est pas sûr que cela ne se retourne pas contre elles. Quand on faisait du catégoriel, au moins on voyait où elles étaient. À généraliser, elles disparaissent de nouveau. On pourrait travailler les projets de loi en tenant compte des situations différentes des hommes et des femmes. Dans la loi sur l'exclusion, par exemple, on sait que c'est différent pour femmes et hommes. Quant aux moyens financiers, rigolons, continue Geneviève Fraisse. L'interministérialité est un art difficile. Le budget de service de droits des femmes est malmené depuis de longues années. En 98, il est même inférieur au premier budget du service en 82, c'est tout dire. Quant aux deux promesses que Jospin avait faites pendant sa campagne, la campagne sur la contraception va partir. Quant à la campagne sur les violences également, un projet de recherche va être lancé. On attend de trouver un financement. J'attache, dit Geneviève Fraisse, énormément d'importance au sujet des violences, pas seulement conjugales, car la violence à l'encontre des femmes dans l'entreprise, le sexisme sont des vrais problèmes. Il y a une continuité entre les violences domestiques et les violences publiques. La crise économique a intensifié cet état de violence à l'encontre des femmes. Et pour terminer nos nouvelles, il pleut, donc du coup, j'ai décidé d'offrir des chapeaux aux cochons sexistes de la semaine. Et on commence avec autour de la pilule Viagra. Ah oui, tout le monde en parle. Nous, on n'en a pas parlé. Pourquoi ? Enfin, laissons ça de côté. Mais quand même, autour de cette pilule, on a pu entendre des choses extraordinaires. Par exemple, Bernard Moreau, qui écrit dans le dernier numéro de l'hebdomadaire français Marianne, sur le titre « Le mal, avec un chapeau, du cochon et un circonflexe, le mal est fait ». Pour lui, toute cette histoire, je cite, « C'est à croire que cette opération, donc le Viagra, de dénigrement, puisque si Viagra il y a, ça veut dire que problème il y a aussi », donc je recontinue, c'est à croire que cette opération de dénigrement était en sous-main, orchestrée par des fanatiques de l'ultra-féminisme, acharnés à ternir un peu plus l'image de l'homme, déjà savamment déglingué par les autres assauts sournois de l'international des nanas castratrices. Bernard Moreau, dans les lignes de l'hebdomadaire Marianne, il peut peut-être nous faire croire que c'est de l'humour, qui sait, ils sont capables de tout. Quant à l'épouse de l'extrême droite italienne Gianfranco Fini, Madame Daniela Fini, un chapeau de la cochonne pour elle, puisqu'elle a estimé à la télévision qu'un joueur de football ne pouvait pas être homosexuel. Le Front National aurait acquis des droits pour la France de cette opinion marquée au coin du bon sens qu'il ne s'en serait pas privé. Et puis, deux petites nouvelles qui nous ont laissé tout à fait pantoises, pour ne pas dire... étonné, l'Inde et le Pakistan ont vraiment des attitudes tout à fait spéciales et étonnantes par rapport à leurs bombes atomiques. Ainsi, le Pakistan, les habitants de Changi ne se tiennent plus de joie que leur modeste bourgade ait été le théâtre des 6 essais nucléaires. Nous sommes fiers que notre terre ait été choisie pour répondre à l'Inde, clame un villageois enchanté d'avoir contribué à l'équilibre de la terreur. Des abris temporaires en toile leur avaient été fournis. Qui sait si dans quelques années, quand ils commenceront à développer des drôles de cancers et des drôles de maladies, ils seront peut-être moins enthousiastes. Quant en Inde, eh bien le site où les bombes ont explosé sera peut-être l'endroit d'un prochain temple. Un groupe fondamentaliste hindou veut construire un temple à l'endroit où ont eu lieu les 5 essais nucléaires indiens, histoire d'immortaliser ces explosions de fierté nationale recouvrée. L'idée de ce projet viendrait des hindous, ces pèlerins hindous qui voyagent à travers le pays pour se rendre dans les lieux saints. Alors vraiment, ça sera magnifique, peut-être, qui sait, on le verra de la nuit, il sera complètement fluorescent. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse avec Marjolaine qui vous prépare son cœur activement. À la semaine prochaine. Bonsoir. Restez sur 93.8 MHz.
Sonsoma kelende aliyanta moso konibe adiya bale bolode.